Voilà, le Seigneur, il y a 2 semaines peut-être, le Seigneur m'a interpellé à travers un passage. C'est beau de voir comment la parole de Dieu, elle est tellement riche qu'on peut avoir lu des passages plusieurs fois et être interpellé de façon nouvelle par différents passages. Et c'est ça qu'il m'a mis à cœur de vous partager, de partager avec vous ce matin. Donc on va lire 2 courts passages dans Genèse. Alors vous savez, c'est un peu l'histoire de Jacob et de ses fils. Et puis, parmi ses fils, il y avait un qui s'appelait Joseph et qu'il aimait particulièrement. Mais comme il l'aimait tellement, ça créait aussi la jalousie de ses frères. Et on sait toute l'histoire, hein, comment ses frères ont voulu le tuer. Bon, finalement, il y en a un qui le délivre du puits, mais il part en esclavage et il va avoir toute cette histoire en Égypte et comment Dieu va venir au secours de Joseph. Et donc, on va lire 2 passages. Un, le premier, c'est juste après. Que Joseph a été jeté dans le puits. Et donc c'est dans Genèse 37. Et bien sûr, après ce qu'ils ont fait, les frères de Joseph, il faut bien qu'ils trouvent une explication pour leur père, parce qu'ils ne savent pas comment ils vont expliquer ça à leur père. Et donc ils ont tout un stratagème. Et on peut lire à partir du verset 31. Ils prirent alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et plongèrent la tunique dans le sang. Puis ils envoyèrent la tunique bigarrée à leur père en lui faisant dire: « Nous avons trouvé ceci, reconnais donc si oui ou non c'est la tunique de ton fils. » Jacob la reconnut et dit: « C'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. » Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant de longs jours. Tous ses fils et toutes ses filles se levèrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation. Il disait: C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Et puis après, le temps passe, Joseph est en Égypte et Dieu fait de grandes choses. Et il va l'élever sur l'Égypte et on arrive à l'autre épisode où les frères de Joseph reviennent vers Jacob, ils reviennent d'Égypte. Et ils viennent avec une autre nouvelle, Genèse 45, 26-28. Et donc, bien sûr, Joseph s'est révélé à ses frères, et maintenant ils doivent revenir, et il leur dit d'amener son père. Et donc, ils viennent vers Jacob, et ils lui disent, donc 45, 26, ils lui déclarèrent: Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui répétèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Jacob vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de leur père Jacob reprit vie. Israël dit: C'est assez, mon fils vit encore, j'irai le voir avant de mourir. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vie. Et je prie cette vague de vie sur chacun de nous ce matin. Seigneur, je prie la vague de ton esprit sur nos cœurs et sur nos esprits. Seigneur, tu sais où chacun de nous se trouve, Seigneur, et nul d'entre nous n'est trop éloigné, ni dans ses soucis, ni dans ses circonstances, pour que tu ne puisses l'atteindre, Seigneur. Alors je prie que cette vague de ta parole, de ton esprit et de ta vie viennent nous trouver là où nous sommes et que nous nous laissions trouver là où nous sommes par ton esprit, par ta parole et par ce que tu déclares sur nos vies. Père, je prie que ton murmure doux et léger dans nos cœurs parle plus fort que le vent, que la tempête, que toutes les choses que nous voyons. Seigneur, alors viens avec cette parole. Et Père, je prie que maintenant tu ouvres les cœurs pour entendre, tu enlèves les bouchons des oreilles, les voiles des yeux et les bouchons des cœurs, afin que nous voyions, que nous entendions, que nous croyions et que nous saisissons ce que tu veux nous donner par ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas donner aujourd'hui à chacun de tes enfants. Amen. Amen. Voilà. Alors deux scènes très différentes, hein, opposées. Et je ne sais pas si vous savez combien de temps s'est passé entre ces deux scènes. Est-ce que quelqu'un a une idée? 13 ans. C'est même plus que 13 ans. Parce que Joseph est envoyé à 17 ans, effectivement, en Égypte. Et à 30 ans, il est élevé par Pharaon. Mais après, il y a 7 ans. Et quand il est élevé, il y a ensuite 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Et c'est au milieu de... On ne sait pas exactement, mais c'est à peu près au milieu. En tout cas, c'est plus de 20 ans, peut-être 23 ans, c'est certainement plus de 20 ans, entre 20 et 27 ans, qui se sont passés entre ces deux scènes-là. Et on peut imaginer, hein, vous savez... Je dis ça souvent, mais la Bible, on peut la lire comme un livre, ou on peut la lire comme une vie, comme le cheminement de vie. Et ça change toute la perspective. Des fois, vous pouvez lire la Bible et vous dites « Oh là là, mais c'est terrible ce qui arrive à Joseph là actuellement. Ah, mais tu passes 5 minutes, tu tournes la page. Ah, super, Dieu est intervenu, alléluia. » Mais ce qu'on oublie, c'est voilà, c'est le poids des ans, c'est le poids du temps qui passe, et c'est la souffrance que ça représente. Mais comment aussi Dieu agit souverainement au sein de cette souffrance et comment Dieu ranime l'esprit. Et donc là, il y a toute une histoire et on sait que Joseph était le fils préféré de Jacob, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. On estime qu'il l'avait eu vers 90 ans, donc on peut comprendre qu'il était très content effectivement d'avoir eu ce fils dans sa vieillesse. Et il faisait toute sa joie. Et vous savez, il lui avait donné ce beau manteau bigarré qui était le signe des nobles. Mais ça avait créé toute cette jalousie de ses frères. Et alors, il y a toute cette tromperie et ses frères qui viennent et qui inventent donc ce stratagème pour tromper leur père et pour dire, voilà, il est mort. Et ce qui est terrible, c'est de voir comment Jacob réagit. Il y a un deuil, mais Jacob, il est tellement touché dans ce qui est précieux pour lui, dans ce qui constitue sa vie, qu'il va déclarer, voilà, il refuse toute consolation. Il refuse toute consolation. C'est comme s'il dressait un voile et il déclare sur sa vie, mais voilà, je mourrai, je le rejoindrai dans le séjour des morts. Et il tire un trait sur toute sa vie. Il y a Maggie, souvent, elle a une expression que j'aime bien, elle dit, voilà, cette personne est devenue l'ombre de lui-même. Et je pense à partir de ce moment, Jacob, qui avait beaucoup de joie, malgré toutes les souffrances par lesquelles il était passé, c'est comme s'il devient l'ombre de lui-même et il refuse toute consolation. C'est comme s'il met presque, je dirais, le couvercle du cercueil sur lui et il dit « Maintenant ma vie est terminée. Maintenant ma vie est terminée. » Et parfois on a des périodes comme ça dans nos vies, on a des choses qui nous arrivent dans nos vies où il y a un voile de deuil qui est mis sur nous ou que nous mettons nous-mêmes sur nous. Et on dit « Oh mais voilà, après ça, voilà, j'avais toute mon espérance » dans telle situation, dans telle personne, j'espérais tant pour ma vie, mais maintenant, comme cela n'a pas marché, je tire un trait et je mets un voile sur ma vie. Et des fois, on le déclare pas ouvertement comme Jacob, mais c'est effectivement ce qui se passe dans notre vie, et il y a comme un couvercle de deuil qui est posé sur des cœurs. Et je pense que ça peut être une réalité qu'on a vécue avant de connaître Jésus, et je pense que Jésus, il vient pour ramener la vie, mais c'est aussi peut-être des fois des réalités qu'on vit après avoir connu Jésus. Et il y a quelque chose qui est volé par l'ennemi de tout ce qu'on a pu recevoir de sa part. Donc je peux imaginer Jacob pendant toutes ces années. Et ce qui est frappant, c'est que, je ne sais pas, vous seriez dans cette situation. Probablement, votre plus grand désir, ça serait d'entendre que Joseph est vivant. Mais lui, il a tiré un trait, il ne peut pas croire ça. Et c'est frappant de voir que quand les fils viennent avec une bonne nouvelle, la meilleure nouvelle que Jacob ait pu jamais imaginer, il est vivant. Et non seulement il est vivant, mais il domine sur toute l'Égypte. Vous imaginez la nouvelle. À l'époque où il y avait une famine, où Israël était dépendant de l'Égypte, et il y a cette double bonne nouvelle qui est là. Et on aurait pu imaginer que Jacob allait sauter de joie, « Alléluia, merci Seigneur !» Mais on nous dit « Son cœur demeura froid. » Son cœur demeura froid. Et pourquoi ? Parce qu'il ne croyait pas ce qu'il lui disait. Vous voyez, dans nos vies, c'est frappant de voir quand les frères, quand les fils de Joseph, les fils de Jacob sont venus, décidément, je confonds les deux à chaque fois, quand les fils de Jacob sont venus, ils lui disent, oh regarde, est-ce que c'est la tunique de Joseph ? Il dit, oh c'est la tunique de Joseph. Et il en déduit, il a été dévoré par une bête sauvage. Vous voyez la capacité que nous avons dans nos vies à croire le mensonge de l'ennemi. L'ennemi, il ment pour voler, pour détruire, et très souvent dans nos vies, nous sommes promptes à croire le mensonge de l'ennemi. Hein, bon, à l'époque, il n'y avait pas les tests ADN, ils auraient pu voir que c'était du sang de mouton, mais ou je ne sais plus quelle bête ils ont, oui, un mouton qu'ils ont sacrifié. Mais Jacob est prompt à croire le mensonge de l'ennemi qui vient voler l'espérance et la joie que Dieu avait mis en lui. Et par contre, quand les frères de Joseph viennent annoncer à leur père, mais voilà, ça, on t'avait menti à l'époque. Joseph est vivant. Hein. Imaginez aussi tout le défi pour les frères de Joseph de devoir avouer leur forfaiture, tout ce qu'ils avaient fait d'ignoble. Et là, ils ne les croient pas. Je suis toujours frappé de voir la capacité que nous avons de croire les mensonges de l'ennemi dans nos vies, et nous avons du mal à croire la vérité de Dieu. L'ennemi vient avec un mensonge pour voler et pour détruire nos vies, et nous le croyons, alors que quand Dieu vient avec la vérité pour relever et pour amener la vie, nous ne le croyons pas. Et c'est ce qui arrive à Jacob. Et puis alors, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, on va voir un petit peu par étapes comment cela se passe, mais je pense que ça nous donne un parallèle entre Jacob et peut-être nos situations. Bon, peut-être nous avons eu une espérance qui faisait notre joie, comme Jacob avait mis toute sa joie en Joseph. Quelle est l'espérance qui peut-être faisait ta joie? Et peut-être nous avons connu, comme Jacob, un deuil physique qui a volé notre joie, le deuil d'un proche qui a volé notre joie, qui a volé notre espérance. Mais des fois, ce sont des deuils qui sont peut-être pas des personnes qui partent, mais des espérances déçues, des espérances qui meurent. Peut-être qu'on avait mis toute notre espérance dans quelque chose que Dieu nous avait promis et on n'a pas vu l'accomplissement. Soit pour nos enfants, soit pour un conjoint, soit pour des choses que Dieu avait promis dans notre carrière, dans notre travail. Et on ne voit pas ça. Il y a quelque chose qui se brise là. Et l'ennemi peut venir et dire, regarde, tout est fini pour toi. Regarde, est-ce que je ne t'avais pas dit ça? Tu vois, la promesse, là, c'était un mensonge. Allez, prends le manteau du deuil et garde le manteau du deuil et refuse toute consolation. Et très souvent, on est comme ça. Et peut-être on lutte avec ça. Et on essaye, avec les jours qui passent, les années qui passent, de sortir du deuil. Mais il y a quelque chose qui est brisé et cassé. Et on peut être l'ombre de soi-même pendant des années. Et c'est ce qui était arrivé à Jacob. Est-ce qu'il y a des espérances qui faisaient ta joie et qui ont été volées? Est-ce que tu en as fait le deuil? Est-ce que tu penses encore peut-être aujourd'hui, c'est fini, je ne verrai pas ces choses s'accomplir? Est-ce que tu refuses toute consolation dans un domaine de ta vie? Et est-ce que tu as déclaré la mort sur ce que Dieu avait promis, ce que tu avais espéré, sur les rêves que Dieu t'avait donnés? Est-ce que tu as déclaré une sorte de mort sur ta vie? Est-ce que tu es devenu l'ombre de toi-même dans un domaine de ta vie? Dieu veut venir et ramener la vie. Regardez ce qui se passe avec Jacob. Il est dit que quand il vit les chars de Pharaon, il reprit vie. Il reprit vie. Et je pense que c'est ce que Dieu est puissant pour faire dans nos vies. Je crois qu'il l'a fait la fois où nous sommes venus à Jésus pour la première fois. Il l'a fait puissamment parce que nous étions peut-être sous toutes sortes de fardeaux, toutes sortes de deuils, toutes sortes de déceptions, mais Dieu est venu ranimer notre âme. Mais l'ennemi ne lâche pas le morceau et souvent il vient avec des circonstances dans nos vies pour essayer de voler ça. Et il faut que nous revenions perpétuellement ou régulièrement dans cette présence de Jésus pour retrouver sa vie qui bannit le deuil et qui redonne joie et paix. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Dieu est un Dieu qui rachète. On a une circonstance de deuil et maintenant on va voir comment Dieu rachète les choses pour Jacob. Donc, on voit que c'est quand il voit les chariots de Pharaon qu'il commence à croire et que quelque chose se ranime en lui. Pharaon avait envoyé beaucoup de choses. Il avait envoyé des ânesses avec toutes sortes de provisions pour la route et pour bénir Joseph, toutes sortes de produits de l'Égypte. Et en fait, ça c'était les ânesses. Donc il s'agit pas de la nourriture, c'est pas la nourriture qui réveille l'esprit de Jacob. C'est pas la provision, oh tiens, les temps vont être plus faciles, maintenant on a commis la famine. Mais c'est les chariots de Pharaon. Et Pharaon avait envoyé spécifiquement les chariots, il avait donné cet ordre à Joseph, je t'envoie les chariots pour que tu fasses venir ton père et tes frères et que vous veniez habiter dans le pays d'Égypte. Et donc, ces chariots, ça représente un petit peu tout ce qui va faire sortir Jacob de sa situation, de son pays de stérilité, de son pays de famine, pour aller vers le pays de la prospérité. Bon, alors je sais que dans d'autres contextes, l'Égypte n'est pas un symbole favorable, mais en l'occurrence, dans ce contexte-là, il y avait une bénédiction de Dieu qui était préparée en Égypte pour sortir Israël du pays de la stérilité. Il y avait sûrement une conséquence du péché des frères de Joseph aussi là-dedans, mais et pour les faire aller vers l'abondance et vers la prospérité. Donc ces chariots, c'est un symbole qui dit à Jacob, accepte de sortir de ta situation et d'aller là où Dieu a préparé une bénédiction pour toi. Et je crois que ce matin, Dieu veut le dire à plusieurs d'entre nous. Accepte, regarde les chariots que Dieu a préparés pour te transporter de ta situation de deuil, de ta situation de stérilité peut-être dans ta vie, vers une situation de consolation et vers une situation de prospérité et une situation de fécondité. Et quand il voit ça, il reprend vie. Il reprend vie. C'est important de pouvoir identifier quand Dieu visite son peuple, quand Dieu te visite et quand Dieu déclare une nouvelle saison sur ta vie. Voilà, aujourd'hui, si tu ouvres les yeux, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois sur ta vie? Bon, peut-être tu vois des bonnes choses sur ta vie, alléluia. Et comment tu vois ta vie, comment tu vois le monde qui t'entoure, comment tu vois ton cadre familial, ton cadre professionnel, comment tu vois ton église ici à Wavrin, comment tu vois l'église, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la fécondité, est-ce que tu vois la joie, ou peut-être tu le vois dans certains domaines, et alléluia, merci Seigneur, mais peut-être tu vois aussi des domaines de stérilité, de famine, de manque de fruits sur ta propre vie. Mais à quoi regardes-tu? Est-ce que tu vas t'arrêter là comme Jacob, et dire « Oh, mais il n'y a pas d'espérance. Mais il n'y a pas d'espérance. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de l'église? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ma vie? Ou est-ce que tu vas voir les chariots que Dieu envoie pour te faire changer de territoire et te mettre sur un lieu de fécondité et de bénédiction? » Rappelez-vous, il faut toujours recevoir, savoir discerner la visitation de Dieu et les nouvelles saisons de Dieu et les recevoir avec foi. J'étais tout frappé récemment de voir qu'une même visitation peut être reçue pour la vie et une même visitation peut être refusée pour la mort. Pensez quand les anges viennent visiter Abraham. Vous savez, ils lui disent « Dans un an, ta femme va enfanter un fils, ça sera le fils de la promesse, Isaac. » Et Abraham reçoit ça par la foi. Et ça enfante la vie, ça enfante la promesse et toute la lignée d'Isaac, de Jacob, d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Une tellement grande bénédiction. Et ça, c'est le chapitre 18 de Genèse. Et vous n'attendez pas un instant, les anges partent, ils s'éloignent, Abraham les accompagne pour un instant, et c'est là qu'il intercède pour Sodome et Gomorre. Et ces mêmes anges, ils arrivent, enfin deux d'entre eux en tout cas, pas l'ange de l'Éternel, mais les deux anges, ils arrivent à Sodome, et ils entrent dans la maison de Lot. Et qu'est-ce que font les habitants de Sodome? Ils disent « Ah, alléluia, des anges nous ont visités, Dieu est avec nous ». Non, ils ne reconnaissent pas la visitation de Dieu. Et ils disent « Mais fais sortir ces hommes pour que nous les connaissions, pour qu'on abuse d'eux », parce qu'on savait que les mœurs à Sodome étaient complètement dépravées. Ils ne reconnaissent pas la visitation de Dieu. Et parce qu'ils ne reconnaissent pas la visitation de Dieu, ça produit tout le contraire de la vie, ça produit la destruction qu'on sait sur Sodome. Bon, Dieu est bon, et je ne pense pas qu'il veut envoyer la destruction, mais des fois, parce que nous ne reconnaissons pas les temps de la visitation de Dieu, nous pouvons passer à côté de la bénédiction de Dieu. Sachons reconnaître la visitation de Dieu et sachons reconnaître les signes que Dieu envoie, les chariots qu'il envoie pour nous faire aller. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ces chariots pour nous aujourd'hui? Comment est-ce que tu vois le monde qui t'entoure? Voilà, on peut dire oh là là, le monde est ébranlé, oh les gens sont de plus en plus centrés sur eux-mêmes, sur leurs difficultés. Et ça, c'est toutes sortes de façons d'interpréter des réalités, mais qui ne produisent pas la vie. Par contre, tu peux voir qu'à travers les choses qui se passent, on peut essayer de voir comment Dieu visite son peuple, la soif spirituelle qu'il est en train de créer autour de nous. La soif spirituelle. Les gens commencent à perdre leurs repères et leurs habitudes, et ce qui était solide s'effondre, et c'est une opportunité que Dieu donne. Et il crée une soif de ce qu'ils ne connaissent pas, mais une soif de quelque chose de solide. Et nous sommes en mesure de répondre à cette soif. Comment est-ce que je vois les choses qui m'entourent? Et quand le monde est ébranlé dans ses certitudes, c'est vrai, il y a toute une perte de repères, mais c'est une opportunité pour le peuple de Dieu d'apporter les réponses de Dieu. Ce qui faisait la solidité du monde, ses repères économiques, ses repères politiques, est en train d'être ébranlé pour que ce soit une opportunité pour l'Église de donner une autre réponse, de donner la réponse et le solide fondement. Donc il y a deux façons. Voilà, on peut dire, oh mais moi je ne vois pas la visitation de Dieu là-dedans. Les choses vont de plus en plus mal, la situation financière, même dans mon propre travail, je peux le voir, tout va mal. Et on peut passer à côté de la visitation de Dieu. Ou alors on peut reconnaître, c'est vrai, les choses vont mal, je ne nie pas la réalité, mais je vois comment Dieu, à travers ça, est puissant pour visiter son peuple et pour faire de son peuple une occasion de bénédiction. Et vous voyez, Pharaon avait envoyé des chars parce qu'il savait qu'il y avait une bénédiction. Il avait vu comment Joseph, cet Hébreu, est devenu une bénédiction pour l'Égypte. Il a sauvé l'Égypte, et par la même occasion, il a sauvé plusieurs nations de la famine. Il a sauvé l'Égypte. Et Pharaon dit, va, prends tes chars, et va chercher ton père, et venez avec toute votre famille habiter dans mon pays. Parce que si Joseph a été une bénédiction pour l'Égypte, combien plus toute la famille de Joseph sera une bénédiction pour l'Égypte? Et il y avait un cri là, et je pense qu'il y a un cri actuellement du monde qui nous entoure, même s'ils ne le savent pas. C'est sûr, les leaders politiques vont pas monter à la tribune pour dire « Oh, Église, nous avons besoin de toi, viens nous bénir ». Mais il y a un cri silencieux dans les cœurs, dans le monde qui nous entoure, et qui dit « Venez et bénissez-nous, parce que nous ne savons pas comment être bénis ». Et ce cri silencieux, nous devons l'entendre, et nous préparer à y répondre. Et en voyant les chariots, en voyant les chariots que Pharaon envoie, en voyant les chariots du monde qui disent « Venez et bénissez », nous pouvons aussi reprendre vie. Comme a dit Jean-Luc tout à l'heure, si je me tourne sur moi-même et ma situation, voilà, je risque d'être écrasé par ma propre situation. Jacob s'est refermé et replié sur lui-même, il a déclaré le deuil, il a déclaré la mort, et il ne voyait plus d'espérance. Mais Dieu lui donne une opportunité, non seulement de retrouver l'espérance parce que ce qui semblait mort vit, mais aussi de devenir une bénédiction. C'est ce que Dieu veut que nous entendions ce matin. Et à ce moment-là, Jacob, il voit les chars, et qu'est-ce qui se passe? Il est super content, mais qu'est-ce qu'il dit? Oh, mais maintenant ma vie va changer, tout est nouveau, etc. Mais regardez, le deuil est tellement fort sur Jacob, que tout ce qu'il arrive à déclarer, il dit, c'est assez, mon fils Joseph vit encore, alléluia. Donc on peut s'imaginer qu'il va faire des grands plans pour sa vie. J'irai le voir avant de mourir. Vous parlez c'est une super espérance, une super perspective. Oh, j'ai été privé de mon fils pendant plus de 20 ans, toute ma joie est partie, mais maintenant que j'apprends qu'il est vivant, je vais juste aller le voir avant de mourir. Il est tellement cassé à l'intérieur de lui, Jacob, qu'il ne voit pas de perspective. Il voit pas de perspective. Et je pense que c'est parfois notre cas dans nos vies. Parce que quelque chose a été cassé tellement profondément, même quand nous voyons les prémices de ce que Dieu est en train de faire, de changer dans nos vies, nous refusons de croire, ou alors nous croyons, mais c'est comme si le poids de la mort n'arrive pas à sortir. C'est comme si le poids du deuil n'arrive pas à sortir. J'ai parlé de deuil physique, j'ai parlé de deuil de déception. Il y a des deuils qui sont brutaux. Il y a des deuils qui sont brutaux, il y a d'autres deuils qui sont le deuil quotidien de la vie qui vient voler la joie du salut. Et des fois, c'est ce deuil aussi qui nous attaque. C'est pas un deuil brutal, voilà, quelque chose m'a cassé, mais c'est comme un deuil jour après jour, où on fait comme le deuil de nos espérances, le deuil de notre joie, et l'ennemi vient voler la joie du salut. Et parfois, il est difficile de sortir de ce deuil, et on dit, oh, bon, c'est vrai, Dieu fait quelque chose, allez, bon, on va essayer de faire encore quelque chose, mais c'est un peu comme Jacob, oh, on va encore essayer ça avant de mourir, avant de renoncer à tout le reste. Voyons, on est aussi optimiste que Jacob, mais Dieu a une meilleure promesse pour chacun de nous, et Dieu a une meilleure promesse pour son Église. Vous voyez, Jacob, il pensait que sa vie était terminée, et il ne savait pas que le mandat de Dieu pour lui était loin d'être fini. Et peut-être qu'il y a des domaines de ta vie où tu as tiré un trait, et tu ne sais pas que le mandat de Dieu pour ta vie est loin d'être fini. Regardez ce qui restait à faire à Jacob. D'abord, Jacob dit, oh, allez, je vais voir Joseph et puis je vais mourir. Vous savez combien de temps il a encore vécu en Égypte après ça? 17 ans encore. 17 ans. Hein, c'est comme Isaac quand il a voulu bénir ses enfants rapidement. Oh, je suis en train de mourir. Et je pense que lui, il a vécu quasiment 30 ans après. 17 ans, il avait déjà 130 ans, hein, mais il a encore vécu 17 ans. Bon. Et Donc, premièrement, il avait une bénédiction pour lui. Ce n'était pas simplement de voir Joseph et mourir, c'était de profiter de son fils dont il avait été privé et de vivre cette joie d'être dans sa présence, cette joie d'avoir sa famille réunie et réconciliée aussi. Donc, il avait 17 ans. Ensuite, on voit que en Genèse 46, quand il se met en route, voyez au verset 2 et 3, il rencontre Dieu, il offre des sacrifices, et alors Dieu lui parle à travers un songe. Dieu parla à Israël dans des visions nocturnes. Il dit « Jacob, Jacob !» Jacob répondit « Me voici !» Et Dieu dit « Je suis le Dieu de ton père, ne crains pas de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. » C'est là que je te ferai devenir une grande nation. Jacob avait mis en oubli la promesse que Dieu avait faite à son père Abraham, que Dieu lui avait renouvelée. Je ferai de toi une grande nation. À son grand-père Abraham et à son père Isaac. Je ferai de toi une grande nation. Et Dieu lui rappelle cette promesse et dit, je vais l'accomplir. Si Jacob était resté avec un cœur inconsolable, qui refusait la consolation, Israël ne serait pas devenu cette grande nation jusqu'à la bénédiction qu'elle a été pour nous et qu'elle est pour nous aujourd'hui. Il fallait que le cœur de Jacob se réveille et qu'il entende cette voix de Dieu. Ne crains pas, parce que je ferai de toi une grande nation. Et parfois Dieu vient dans nos deuils, dans nos renoncements et dit ne crains pas d'aller, ne crains pas de sortir de ta situation, ne crains pas de sortir et de confronter la situation dans laquelle tu es parce que j'ai une bénédiction pour toi et j'en ai pas fini avec toi. Et ce que j'ai promis sur ta vie, je vais aussi l'accomplir. Mais pour ça, il faut que nous acceptions d'entendre et d'obéir à la voix de Dieu. Donc, Jacob n'avait pas terminé son mandat. Il y avait une bénédiction pour lui, voir Joseph, jouir de ses vieux jours dans la présence de son fils bien-aimé, et dans la prospérité aussi, parce qu'il faut se rappeler qu'il y avait la famine sur Israël, et là il y avait une promesse qu'en Égypte, il ne mourrait pas de faim. Et il lui fait la promesse de devenir une grande nation. Tout ça, c'est des bénédictions et des mandats pour Jacob. Mais il y avait aussi des mandats que Jacob devait jouer pour les autres. Et il y avait encore trois choses que Jacob devait faire. Premièrement, quand il arrive, Genèse 47, verset 7. Alors 47, verset 7. Joseph fit venir son père, Jacob, et le présenta au Pharaon, et Jacob bénit le Pharaon. Dans un autre passage de la parole, il est dit, c'est incontestablement le supérieur qui bénit l'inférieur. Et pourtant, vous imaginez, Pharaon, le roi du pays le plus puissant de l'époque, Pharaon qui détient la clé pour faire vivre Jacob et toute sa famille, parce qu'il a ils ont la nourriture en Égypte, et pourtant c'est Jacob qui bénit Pharaon. Et Pharaon se laisse bénir par Jacob, parce qu'il sait que Jacob a quelque chose qu'il n'a pas. Il a la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, il y a peut-être des temps dans ta vie où tu n'as pas l'impression qu'il y a beaucoup de fruits, mais sache que tu a le mandat d'être une bénédiction pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu as la capacité de bénir si tu acceptes de bénir. L'Église a traversé plusieurs périodes dans peut-être l'Église de Wavrin, on peut dire l'Église locale de Wavrin, peut-être on va dire, oh là là, mais on est dans une période difficile, on n'a pas de puissance, mais tu as la puissance d'être un outil de bénédiction pour bénir ceux qui ne connaissent pas, et pour bénir des gens qui sont beaucoup plus puissants que toi. Pharaon était celui qui était le plus puissant, mais Jacob avait l'autorité de le bénir. Et je crois qu'il faut qu'on réalise en tant que chrétien et en tant qu'église le mandat que nous avons et l'autorité que nous avons pour bénir même ceux qui nous semblent beaucoup plus puissants que nous, avoir beaucoup plus d'autorité, que ce soit les autorités politiques, que ce soit les autorités économiques. Et on va dire, oh mais comment je vais les bénir? Ils ont tout, moi j'ai rien. Mais Dieu dit, tu as un trésor plus précieux pour les bénir. Amen. Alors, il y avait ce mandat pour Jacob. Il avait encore d'autres mandats. Il avait le mandat de partir avec toute sa famille habiter en Égypte. Et comme on a dit tout à l'heure, si Joseph, lui seul, a été une bénédiction pour toute l'Égypte, combien plus le fait que la famille entière de Jacob et la nation d'Israël naissante habite en Égypte allait être une bénédiction. Alors c'est vrai qu'ensuite, on sait 400 ans après, comment cela a été retourné. Mais il y a des périodes il y a des saisons, et il y avait une saison où Jacob devait être un outil de bénédiction. Donc leur présence allait être une bénédiction pour l'Égypte. Et de la même façon que l'Égypte était ce pays où coulait le lait et le miel, bon, je sais que ça a été dit pour Israël, mais c'était aussi dit pour l'Égypte précédemment. Par contre, quand Israël va quitter l'Égypte, et on le sait à main forte et à bras étendus, hein, avec toutes les signes et toutes les plaies, on sait comment l'Égypte va devenir une nation qui ne va plus se relever, en fait. Historiquement, ça a été prouvé que vers cette période-là, après le départ d'Israël de l'Égypte, l'Égypte n'est plus jamais devenue une grande nation. C'est prophétisé dans la Bible et ça a été plus jamais une très grande nation, mais c'est devenu. Il y a eu des périodes très difficiles pour l'Égypte. Et donc on voit que leur présence allait être une bénédiction. Le troisième et le plus important, je dirais peut-être, des mandats de Jacob, il y a toute Genèse 49 où il va bénir ses fils. Il est capable de bénir un à un ses 12 fils. Et vous voyez, c'était probablement pas possible tant qu'il était dans le deuil. Il ne voulait pas être consolé. Est-ce qu'il allait encore... Il y avait cette autorité qu'un patriarche avait de bénir ses fils et de les libérer dans leur appel, dans leur vie, dans leur destinée. Est-ce que Jacob était capable de faire ça? Bon, probablement il l'aurait fait par nécessité, mais son cœur était tellement froid qu'il était incapable de bénir. Mais en Genèse 49, il va bénir un à un tous ses fils. Aurait-il été capable de bénir s'il y avait ce poids du mensonge, même si lui ne savait pas qu'il était demeuré, ce poids de la discorde qu'il y avait eu entre ses fils, ce poids de la tentative de meurtre qu'il y avait eu en ses fils, ce poids du mensonge? Il y a quelque chose qui est libéré, il est capable de bénir ses fils. Et plus important encore, il va bénir ses petits-fils. Et ses petits-fils, ce sont donc les fils de Joseph, nés en Égypte, Manassé et Éphraïm. Je vous propose de regarder ça rapidement. Genèse 48. Alors, Genèse 48, versets 13 à 20. Donc, Jacob est sur le point de mourir. Joseph lui amène ses deux fils. Genèse 48, verset 13 à 20. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm par la main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé par la main gauche, à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Il savait bien ce qu'il faisait de ses mains, bien que Manassé fût le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a racheté de tout mal bénisse ces garçons, qu'on les appelle de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, qu'ils prolifèrent beaucoup au milieu du pays. Joseph vit que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm et cela lui déplut. Il saisit la main de son père pour l'écarter de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance remplira toutes les nations. » Jacob a cette opportunité, il avait ce mandat de bénir la génération suivante. Il bénit ses fils et il bénit ses petits-fils. Et nous aussi, en tant que parents, on a cette... Même si tu as quelque chose à briser ta vie, sache que tu as déjà ce mandat de bénir et de libérer la génération suivante. Donc ça peut être une génération physique, nos fils, nos filles, dans la destinée que Dieu leur a donnée. Et donc ça, c'est déjà quelque chose qui doit nous faire comprendre que notre mandat n'est pas fini. Même si on a tiré des traits sur beaucoup de choses, Dieu dit non, j'ai un mandat pour toi. Mais en tant que chrétien, on a aussi une postérité spirituelle et Dieu nous appelle à bénir la génération suivante. Dieu nous appelle peut-être à bénir des fils spirituels qu'on a amené à Christ à travers notre témoignage, ou qui nous côtoient, ou qui sont en train de s'approcher de Dieu. Et Dieu dit, où sont les pères et où sont les mères qui peuvent bénir et libérer la génération suivante? Et dans l'Église, où sont les fils, mais où sont les pères et les mères, avec le mandat de bénir et de libérer la génération suivante? Nous avons ce mandat. Et quelles que soient les choses et les circonstances par lesquelles l'ennemi veut voler notre mandat, il veut voler en mettant un voile de deuil afin que nous ne devenions plus un outil de bénédiction mais un outil de lamentation, je dirais. Et Dieu veut rétablir ça et il veut faire de nous un outil de bénédiction pour bénir et libérer la génération suivante dans son mandat, au sein de l'Église locale et au sein de l'Église corps de Christ dans cette région. Dieu avait ce mandat pour Jacob, mais réfléchissez encore à quelque chose. Il y a une grande richesse dans ce passage. Ça m'a interpellé, très souvent interpellé. Vous voyez le geste que fait Jacob. Il inverse les mains, et parce qu'il a reçu de Dieu, celui-ci sera l'aîné, bien que Manassé était l'aîné, mais Éphraïm est comme placé aîné, il est béni par la main droite et il reçoit la double bénédiction qui était la part de l'aîné. Il y avait une double portion d'héritage et quelque part il y avait une double portion de la bénédiction et Éphraïm reçoit cette double portion. Et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais rappelez-vous qu'il y avait eu la même prophétie qui avait été donnée à Rebecca sur Jacob et Ésaü. Elle avait dit, tu vois, elle se demandait pourquoi elle avait des douleurs et c'était difficile sa grossesse. Et Dieu lui avait dit, c'est parce qu'il y a deux nations dans ton ventre, mais la seconde, la plus petite, sera la première sera assujettie au second. Et Rebecca avait gardé ça pour elle et ça avait conduit, on sait, à tout ce qui est arrivé. Et ensuite, Rebecca et Jacob ont trompé leur père Isaac, ils se sont fait passer pour Ésaü, pour voler la bénédiction. Mais c'est comme si Dieu lui dit là, voilà Jacob. Tu vois, ce que Rebecca n'avait pas osé faire, et ce qui a été pour toi un objet de souffrance, de malédiction, parce qu'on sait qu'ensuite Jacob a dû s'enfuir, il a dû partir au pays de Laban où il a été exploité, il n'a plus jamais revu sa mère bien-aimée, il ne l'a plus jamais revu quand il est rentré au pays, elle était morte. Il y a toutes des choses qui ont été volées, et c'est comme si maintenant Dieu dit, mais j'ai une meilleure destinée pour mes enfants Éphraïm et Manassé. Et non seulement j'ai une meilleure destinée pour eux, mais toi, Jacob, qui a été l'auteur de cette tromperie, je te donne l'opportunité de racheter ce que tu as fait en devenant cet outil de bénédiction. Là où tu peut-être as été un outil de tromperie pour tromper ton père, je te donne l'opportunité d'être un outil de bénédiction, de racheter ces choses. Et je peux imaginer pour la consolation pour Jacob dans ses vieux jours, non seulement Dieu lui montre qu'il y avait un autre chemin, mais il lui dit, maintenant je rachète ces choses et je fais de toi un outil de bénédiction. Et là où Jacob et Ésaü ont souffert pendant toutes ces années, Éphraïm et Manassé sont épargnés de ça. Éphraïm et Manassé, c'est comme si Dieu, à travers Jacob, va désamorcer toute espèce de conflit. On n'entend pas parler de haine entre Manassé et Éphraïm. Manassé accepte que Éphraïm prenne sa place d'aîné parce que c'est venu de Dieu et ça a été fait par la bénédiction et dans la paix, par un homme qui avait l'autorité de le faire parce qu'il l'avait vécu dans sa chair. Il y a des douleurs et des souffrances que nous vivons dans notre chair afin de pouvoir devenir une bénédiction et un outil de paix et de réconciliation pour les autres. Et c'est ce que Jacob fait et c'est ce qu'il est. Et il vit ça dans sa chair. Mais il ne reste pas dans ce deuil, il ne reste pas dans cette lamentation sur sa vie. J'ai échoué dans ma vie, Joseph est mort, j'ai échoué, j'ai trompé mon père, j'ai échoué. Voilà, il vient devant Pharaon, j'ai vécu 130 ans, mais mes jours sur la terre ont été mauvais, et bref. Mais Dieu, pendant les 17 dernières années de sa vie, il change cette perspective et il lui donne d'être un outil de bénédiction et de libérer Éphraïm et Manassé, la seconde génération, dans la bénédiction de Dieu. Jacob avait encore un mandat. Et il ne le savait pas. Jacob avait encore un mandat et il ne le savait pas. Et je crois que Dieu veut dire à plusieurs d'entre vous, vous avez encore un mandat et vous ne le savez pas. Ne restez pas dans le deuil, en vous repliant sur vous-même, sur ce qui a échoué dans le passé. Vous avez encore un mandat, vous ne le savez pas. Mais entrez, montez sur les chars que Dieu est en train de vous donner en vous visitant dans cette nouvelle saison, les chars d'encouragement pour sortir et pour entrer dans la bénédiction, pour quitter le territoire du deuil et de la stérilité, pour entrer sur le territoire de la bénédiction et de la prospérité. Dieu a encore un mandat pour vous. Dieu est le Dieu qui veut réveiller les cœurs morts pour que chacun accomplisse son mandat. Que tu accomplisses ton mandat pour toi-même, comme Jacob a accompli son mandat pour lui-même, voir Joseph, vivre dans la présence de Joseph, être consolé, être dans la joie, mais aussi un mandat pour son œuvre, pour son église locale. Quel est le mandat que Dieu a donné? Dieu t'appelle à sortir de ton deuil, de ce repli sur ta propre souffrance, afin d'entrer dans le mandat et de devenir une bénédiction pour ton église locale, de devenir une bénédiction pour l'œuvre que Dieu veut faire dans cette ville, dans cette région. Et peut-être, enfin certainement même au niveau d'une œuvre, Dieu parle aussi. Dieu parle. Au niveau de cette église, il parle. Il dit, je n'en ai pas fini avec toi. J'ai un mandat de bénédiction pour cette ville de Wavrin, pour cette région, et je n'en ai pas fini. Mais la tentation, c'est de dire, oh, mais je suis petit et faible. Il y a d'autres mots, quand il dit son cœur était froid, en fait, le mot en hébreu, ça veut dire son cœur était faible. Son cœur était faible. Parce qu'il avait été tellement dévoré, érodé, par la souffrance, par la difficulté, par les circonstances. Et parfois le cœur de l'Église est faible parce qu'il a été érodé par les difficultés, les circonstances, les déceptions, les échecs. Mais Dieu dit, je n'en ai pas fini. Et je pense qu'il le dit à cette Église de Wavrin, tu n'as pas fini ton mandat et j'ai des choses meilleures pour que cette Église soit une bénédiction dans cette ville et dans cette région. Et je pense qu'il le dit aussi à son corps dans cette région. Je n'en ai pas fini, tu n'as pas fini ton mandat et tu dois monter sur les chars de tes lamentations pour quitter le territoire de la stérilité et entrer dans celui de la fécondité. Vous savez, le nom de Manassé veut dire celui qui a fait oublier toutes les peines et qui a fait oublier le pays de mon père et toutes mes peines. Donc il y a la consolation et Éphraïm, c'est double fécondité et la fécondité. Et Dieu appelle son Église dans cette nouvelle saison à se laisser consoler, mais pour entrer dans la fécondité. Montons sur les chars que Dieu nous envoie comme un outil d'encouragement. Je vais juste finir avec un dernier passage. Il y a un homme qui avait bien compris comment Dieu travaillait, et c'était l'homme selon le cœur de Dieu, David. Et David a vécu tellement de choses avec Dieu. Il a vécu la gloire, il a vécu la honte, il a vécu la déchéance, il a vécu l'espérance. Et regardez on va voir ce que David dit à la fin de sa vie. Hein, on peut imaginer que pour tout homme, les paroles qu'il prononce à la fin de sa vie sont des paroles capitales qui sont marquées d'un poids et d'une autorité, et je dirais encore plus pour un homme qui a servi Dieu, qui a marché avec Dieu. Et dans 2 Samuel 23, regardez ce que David va déclarer. David arrive à la fin de sa vie et il est tout faible à la fin de sa vie. On sait qu'il n'arrivait pas à se réchauffer, on lui donne même une femme pour lui tenir chaud. On lui dit qu'il connaît même pas la femme, c'est juste pour lui tenir chaud parce qu'il tremblait tout le temps, il avait froid. Et David, dans cette faiblesse de sa fin de sa vie, regardez ce qu'il déclare. 23, on va lire 1 à 5. Voici les dernières paroles de David, oracle de David, fils d'Isaïe, oracle de l'homme haut placé, du Messie du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel a parlé par moi et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui domine sur les humains est juste, celui qui domine dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin, quand le soleil se lève par un matin sans nuages, par son éclat et par la pluie de verdure, la verdure sort de terre. N'en est-il pas ainsi de ma maison avec Dieu ? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point réglée et gardée, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tout ce qui est agréable ? David arrive à l'hiver de sa vie. C'est tellement l'hiver qu'il est dans cette froid de l'hiver. Mais David ne se replie pas sur lui-même dans le deuil et dans la consternation, mais il voit la perspective de Dieu. Il voit la perspective de Dieu. Il sait qu'il a un fils, Salomon, et qui a été choisi par Dieu, qui n'est pas le fils aîné, et il le met en place. Et Salomon va connaître, là où David a connu les guerres, Salomon, son nom veut dire pacifique, va connaître la paix et le repos pendant toute la première partie de son règne, tout le temps où il va être obéissant. Jamais l'État d'Israël n'aura été aussi grand, aussi proche des limites que Dieu avait fixées pour Israël que sous Salomon. Il va avoir la sagesse, la prospérité, la réputation, toutes ces choses, la bénédiction de Dieu. Il y a une fin de saison, il y a un hiver pour David, mais il y a une transmission qui est un nouvel élan pour Israël, qui est une nouvelle saison. Et David voit au-delà de son propre hiver, de sa propre douleur, il voit la grâce de Dieu dans sa douleur, et il voit ce que Dieu va faire. Et je pense qu'il voit bien sûr plus loin que Salomon, il voit Christ, il voit que la descendance de David sera Christ, qui amènera une prospérité, une sagesse encore plus grande. que celle de Salomon. David a ces paroles magnifiques qui disent « Parce que Dieu, par sa nature de fidélité, Dieu est fidèle par sa nature. » On l'a chanté tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, partagées, chantées, qui pour moi confirment vraiment cette parole que Dieu veut imprégner dans nos cœurs. « À cause de sa nature de fidélité, Dieu est puissant pour faire germer tout mon salut. » Pour faire germer tout mon salut. À cause de deux choses, sa fidélité et son alliance éternelle. L'alliance de Dieu n'est pas une alliance de circonstances, elle est une alliance éternelle. Il a les paroles de la vie éternelle. Et il est puissant pour faire germer tout mon salut. Rien ne peut être volé par l'ennemi, même s'il va tenter de voler, dans la mesure où je crois, dans la mesure où je sais que Dieu a l'alliance éternelle et la fidélité pour faire germer tout mon salut. Dans la mesure où je ne me replie pas sur le deuil dans lequel l'ennemi veut m'enfermer, le mensonge que je suis prompt à croire, mais où je suis capable de croire la vérité de Dieu, plus que le mensonge de l'ennemi, pour entrer dans tout mon salut et retrouver la joie du salut qui va avec. David avait compris cela et il partait dans la paix parce qu'il savait que Dieu avait tout accompli. Et nous, nous avons plus que ce qu'avait David, car Jésus a tout accompli à la croix. Et il est puissant pour faire germer tout ton salut, mon frère, tout ton salut, ma sœur, et aussi le salut de son corps ensemble. Pas quelque chose qui est tourné seulement sur moi-même, mais quelque chose qui est tourné vers le corps de Christ et quelque chose qui est tourné vers le royaume de Dieu pour amener son salut à germer dans beaucoup d'autres aussi. Amen. Voilà. Donc, laissons-nous interpeller par la visitation de Dieu et laissons-nous convaincre par la vérité de Dieu et que la vérité de Dieu parle plus fort ce matin dans nos cœurs. Que peut-être des réalités, des situations réelles, quand je parle du mensonge de l'ennemi, c'est des situations réelles. Le deuil pour Jacob était réel, mais le mensonge de l'ennemi, c'est dire tout est fini. C'est ça le mensonge de l'ennemi. L'ennemi utilise des réalités, mais il les détourne pour en tirer des conclusions qui ne sont pas celles de Dieu. Alors on va prier. Oui, Seigneur, comme tu nous l'as dit au début, Seigneur, je prie que ta vague de vie parcourt les rangs ce matin, parcourt nos cœurs et qu'elle emporte, Seigneur, tous les pierres de deuil qui ont été roulées sur les tombeaux, Seigneur, qu'elle roule ces pierres, Seigneur, et que ce qui a été rendu captif dans nos cœurs, dans nos pensées, puisse sortir, comme au jour de Lazare, où tu as dit « Lazare, sors !» Seigneur, je prie que cette voix soit entendue. Et Lazare est sorti parce que la pierre avait été roulée et parce que tu avais la puissance de la vie pour le faire sortir. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, cette voix soit entendue par les parties de nos cœurs et de nos vies où la mort a enfermé, Seigneur. Lazare était mort, mais il a entendu ta voix par l'Esprit. Et Père, je prie que par l'Esprit, nous entendions ta voix ce matin qui proclame la vie, qui proclame la vérité de Dieu, qui détruit le mensonge de l'ennemi, qui a dit « Tout est fini, tu seras l'ombre de toi-même ». Seigneur, tu as d'autres paroles ce matin à prononcer sur les situations réelles, peut-être des deuils physiques, peut-être des deuils spirituels, des déceptions, mais tu as d'autres paroles à prononcer, Seigneur. Tu prononces des paroles de vie. Tout n'est pas fini, mais j'ai un mandat pour toi, j'ai un avenir et de l'espérance pour toi. Seigneur, merci pour ces paroles de vie que nous voulons recevoir par la foi. Seigneur, tu es puissant et fidèle pour faire germer tout notre salut. Notre seule responsabilité, Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui pèse sur nous, mais c'est toi qui l'accomplis en nous et pour nous. Mais notre responsabilité, c'est de le recevoir par la foi ce matin. Alors Seigneur, nous voulons dire oui et amen à tes paroles de vie et de vérité. Seigneur, je prie que ta vérité parle plus fort que tous les mensonges de l'ennemi qui ont miné nos vies jusqu'à aujourd'hui, qui ont volé nos vies. Seigneur, nous proclamons le rachat de toutes ces choses. Nous proclamons la prospérité, la fécondité, Seigneur. Là où nous avons vu la stérilité, l'ennemi a ravagé, nous proclamons la fécondité de Dieu. Seigneur, je veux prier ça aussi sur ton Église. Seigneur, je veux prier ça sur ton église de Wavrin, Seigneur. Je prie ça sur Jean-Luc et Annette, Seigneur, en tant que leader que tu as placé sur cette église, Seigneur. Je prie que, je proclame, Seigneur, que toute la stérilité qu'ils ont pu voir, Seigneur, il y a quelque chose de meilleur, il y a une nouvelle saison que tu déclares, Seigneur. Oh, et que tu vas amener des fruits et de la fécondité, Seigneur. Et même au travers des deuils et des déceptions, Seigneur, il y a une bénédiction à travers ce qu'ils incarnent, à travers ce que tu donnes à ton église d'incarner, qu'elle devient un outil de bénédiction, comme Jacob a été un outil de bénédiction pour Pharaon. Seigneur, merci pour les cœurs préparés. Merci pour cette voix, Seigneur. Je prie que nous entendions cette voix qui appelle comme les chars de Pharaon et qui dit « Viens et bénis, viens et bénis ». Oh Seigneur, je prie que nous soyons capables d'entendre cette voix et que cette voix nous fasse sortir de nos grottes et de nos cavernes pour aller et pour proclamer la bénédiction et pour apporter la vie. Seigneur, tu n'en as pas fini avec nos vies. Tu as un mandat. Tu n'en as pas fini avec cette église de Wavrin. Tu as un mandat pour elle. Tu n'en as pas fini avec ton église dans la région. Tu as un mandat dans cette nouvelle saison. Et ce mandat dit vie. Ce mandat dit bénédiction. Et ce mandat dit multiplication. Alors merci Seigneur. Nous voulons recevoir ces choses dans nos cœurs aujourd'hui et te dire merci. Merci pour ta fidélité dans les temps difficiles et merci pour ta fidélité pour accomplir tout ce que tu as promis. Fais de nous des instruments de fidélité et de bénédiction afin que tout ce que tu as promis s'accomplisse pour nous et pour tous ceux que tu appelles. Au nom de Jésus. Amen. Amen.